monde sait où en Bèche se trouve. Alors, en Belgique. Donc, Ransbech, c'est un hameau de la commune d'Ohain, plus exactement même de la commune de Lannes. Et alors, pour situer, c'est juste à côté de Waterloo. Donc, c'est à un kilomètre du Lyon de Waterloo. Voilà. Alors, on m'a demandé de me présenter. Je ne sais pas si je dois me présenter parce que je connais beaucoup de personnes ici déjà. Sachez que je suis impliqué dans. Si certains me connaissent, c'est parce que je suis impliqué dans la SAPEP et dans la prévoyance évangélique, qui sont deux œuvres de notre association d'église. Voilà. Donc, alors, ce matin, le titre de ma prédication sera « Le récit de la femme adultère, une histoire sans morale qui ne nous concerne pas ». Point d'interrogation. Alors je vous invite à ouvrir la parole de Dieu et nous allons donc lire ce récit de la femme adultère et nous le ferons dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et nous lirons les 11 premiers versets. Si je dis est-ce que c'est une histoire qui nous concerne, c'est parce que j'ose espérer qu'il n'y a pas de situation d'adultère ici, ou en tout cas que la majorité n'est pas dans une situation d'adultère, donc on pourrait se dire, mais finalement, en quoi cette histoire nous concerne-t-elle? Et vous verrez qu'il y a peut-être des questions à se poser. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. « Et toi, que dis-tu ?» Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau, et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, « où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-on condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Alors, pour essayer d'analyser ce texte, d'aller un peu plus en profondeur de ce texte, je vous propose de le faire en analysant les différentes catégories de personnes, ou les personnes qui sont impliquées dans ce récit. Et j'en ai distingué quatre. Alors, une première catégorie de personnes qui est très passive, c'est la foule. Oui, Jésus était en train d'enseigner et la foule était là. Et la foule, en fait, ici, elle est vraiment tout à fait effacée. Qu'est-ce qu'elle fait, la foule? Elle écoute, elle est tout ouïe, mais elle ne se prononce pas. On verra, pas aujourd'hui, mais vous pouvez lire dans la Bible que dans d'autres passages, la foule prend position, soit pour, soit contre Jésus. Elle est, je dirais, enflammée. Elle est menée par certains personnages. Mais ici, la foule est là, elle écoute. Mais c'est quand même un élément important du récit. Parce que ce que Jésus fait ici, il le fait devant la foule. Et la foule, c'est un peu nous, aussi. Deuxième catégorie de personnages, eh bien, ce sont les pharisiens et les scribes. Ou les, comme le dit dans le passage, ici, c'est traduit comme les spécialistes de la loi, on pourrait dire les théologiens. Les pharisiens, en fait, c'était un parti, un peu, je dirais, si on actualise aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un parti politique ou un syndicat ou un courant d'opinion qui prônait la stricte observance religieuse et qui faisait même de la surenchère par rapport à la pratique commune. Donc c'était un peu des extrémistes, on va dire ça comme ça. Et on constate dans notre monde actuel qu'il y a pas mal d'extrémistes de ce type. Et leur but, c'était de piéger Jésus. D'ailleurs, c'est mis dans la parole du Seigneur. C'était au verset... au verset 6, il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. L'accusation, c'était quoi? Ben, c'était en fait de coincer dans un coin Jésus. Si Jésus disait « Oui, vous avez raison, il faut la lapider et je vais jeter la première pierre », eh bien, bon, finalement, Jésus perdait toute sa singularité. En quoi était-il différent des pharisiens? Qu'est-ce qu'il amenait de plus, de nouveau? Non, c'était un parmi d'autres. Et donc, finalement, c'était une manière de faire rentrer Jésus dans le rang. Par contre, s'il disait « Non, il ne faut pas le faire », alors c'était facile de dire « Ah, mais Jésus, vous avez vu, ce Jésus, il ne respecte pas la loi, et donc, il n'y a pas lieu, c'est quelqu'un d'anathème, il n'y a pas lieu, il perd toute sa légitimité, en fait. Et donc, il devient quelqu'un à mettre sur le banc de la société, un faux docteur, un faux prophète, etc. » Et donc, en lançant cette accusation, eh bien, finalement, ils essayaient de mettre Jésus sur la touche. Troisième personnage. On va voir évidemment que Jésus, de par sa sagesse, se sort de ce piège, et c'est souvent le cas. Il perçoit bien, je dirais, les choses, et il a la capacité de se sortir de ce type de situation pour donner un vrai message. Troisième intervenant, la femme adultère. Alors, première chose, ça a peut-être à dire, on parle de la femme adultère. Et ben, en général, un adultère, ça se fait à deux. Et l'homme, là-dedans, point d'interrogation. Alors, je voudrais rassurer ma sœur, dans la parole de Dieu, enfin, je ne sais pas si c'est rassurer, parce que ce n'est pas le type de situation que je vous souhaite, mais dans la parole de Dieu, on parle aussi bien de l'homme et de la femme, dans une adultère. Et la condamnation de l'adultère vaut tout aussi bien pour la femme que pour l'homme. Il faut savoir donc que l'adultère, c'est un des 10 commandements. Dans Exode 20, tu ne commettras pas d'adultère. Et dans Lévitique, il est clairement indiqué que la sanction de l'adultère, c'est la mort. Aussi bien pour l'homme que pour la femme. Et donc ça, il faut quand même se souvenir dans ce passage, c'est que il y a une loi qui dit, hein, le Lévitique dit, bon voilà, il y a une sanction qui est déjà prononcée. Donc, je dirais, l'homme, on n'en parle pas dans l'histoire. Et donc, ça montre bien aussi que l'accusation des pharisiens, elle est un peu plombée, parce que, voilà, normalement, ils auraient dû amener les deux devant Jésus. Mais cette femme, revenons à la femme. La femme, bon, elle est, imaginez-vous, être à sa place, voilà, quelle honte, devant tout le monde, elle est amenée, bon, voilà, ça, je ne sais pas si c'était une femme qui avait commis un adultère par amour, parce que son mari ne la considérait pas bien, peu importe, il n'est rien dit à ce sujet dans la parole de Dieu. Mais imaginez-vous la honte maintenant d'être présenté devant tout le monde comme et pointé du doigt. Imaginez-vous aussi que cette femme,
son issue, elle était mal partie, puisque je viens de vous dire que la condamnation, et c'était le piège dans lequel les pharisiens voulaient amener Jésus, c'est que la condamnation de cette femme, c'était la mort. Et pourtant, cette femme est silencieuse. Elle ne dit rien. Elle n'essaye pas de trouver d'excuses. Elle n'essaye pas de donner sa défense. Elle n'essaye pas de demander le pardon. Non, cette femme est silencieuse. Se rend-elle déjà compte que les dés sont jetés pour elle? Que dans quelques instants, elle va mourir? Se rend-elle compte qu'elle n'a plus son destin entre les mains? Que tout s'écroule autour d'elle? Peut-être a-t-elle des enfants? Silence. Elle ne dit rien. Et puis il y a Jésus. Jésus, il a une attitude bizarre. Il se baisse et écrit sur le sol. Et puis les pharisiens disent, mais alors, qu'est-ce que tu en dis? Il faudrait quand même que tu te prononces. Et il se baisse de nouveau. Et puis il interroge les pharisiens. Que celui qui n'est jamais péché lance la première pierre. Et je reviens à la catégorie des pharisiens. Les pharisiens ont quand même une conscience de Dieu. Ils attaquent Jésus, mais ils ont quand même une conscience de Dieu. Ils ont quand même une conscience de leur non-conformité, de leur péché avec Dieu. Et je ne vais pas les défendre, mais il y a une certaine honnêteté dans leur cœur. Parce que, par rapport à l'interrogation de Jésus, eh bien, ils s'en vont, et il est dit dans la parole, les plus âgés d'abord. Ceux qui ont peut-être, ils se rendent compte que leur vie n'est pas une vie en totale conformité avec ce que leur demande le Seigneur, même s'ils ont fait des sacrifices, même si, eh bien, ils ont quand même cette honnêteté de se rendre compte qu'ils ne sont pas à la hauteur de la situation. Revenons à Jésus. Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne plus. » En fait, Jésus n'est pas venu pour condamner. La condamnation, elle est déjà faite. La loi était déjà là. Un adultère, sanction, mort. Qu'est-ce que Jésus a ajouté dans la situation? Rien. Jésus n'est pas venu pour juger. Jésus n'est pas venu pour condamner. La sentence est déjà connue. Peu importe, c'est inéluctable. Dans Romains, rappelez-vous, le salaire du péché, c'est la mort. Non, Jésus est venu, et dans cette situation particulière, il l'exprime, il est venu pour apporter une solution. Et la solution, ce n'est pas la mort de la personne. Ce n'est pas nécessairement une parole de pardon, ce n'est pas une parole d'approbation de ce que la personne a fait, non. Jésus est venu apporter une solution. Va et ne pêche plus. Alors, cette parole, ce n'est pas une parole conditionnelle. Il n'est pas mis dans la parole de Dieu, « Si tu ne pêches plus, alors je te pardonnerai. Si tu te comportes fidèlement par rapport à la parole de Dieu, alors je t'aimerai, alors je te bénirai. » Non, non. Jésus ne lie pas sa parole à une condition. Si Jésus dit cela, s'il ne condamne pas, ça ne veut pas dire que Jésus approuve le comportement de la femme adultère. Non, lorsqu'il dit « va et ne pêche plus », je pense qu'il propose un chemin de restauration avec Dieu. Et dans un chemin de restauration, il n'y a pas la place pour le péché. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en relation avec Dieu, eh bien le péché, c'est comme un agent bloquant. C'est comme, si je peux me faire une image un peu grossière, c'est comme si vous avez un tuyau et que le péché, c'est comme une boulette qui est à l'intérieur, une boule, et que le flux est bloqué par cet obstacle. Eh bien, le péché, c'est un peu ça. C'est quelque chose qui bloque notre relation ou qui altère notre relation avec le Seigneur. Va et ne pêche plus. Ce n'est pas, disons, la requête de dire « vis comme un homme parfait ». Ce n'est pas directement un appel à une perfection, à être un petit saint, entre guillemets, mais c'est d'éviter d'avoir des blocages dans notre relation avec Dieu. Et c'est de permettre une relation avec Dieu qui soit pleinement satisfaisante. Après avoir analysé un peu la situation, j'aimerais maintenant, dans un deuxième temps, vous dire, mais ce texte de l'Évangile, au jour d'aujourd'hui, comment nous parle-t-il ? Et j'aurais une interrogation à vous faire. Vous, à quelle catégorie de personnes vous identifiez-vous ? Est-ce que vous vous identifiez à la foule ? Est-ce que vous vous identifiez à la femme adultère ? Est-ce que vous vous identifiez aux pharisiens ? Est-ce que vous vous identifiez à Jésus ? Réfléchissez peut-être dans la suite, dans les minutes qui viennent. Moi, j'aurais tendance à dire, on pourrait peut-être s'identifier à chacune de ces catégories de personnes. Alors, la foule, premièrement. La foule est passive. La foule, c'est souvent, je dirais, un ensemble de personnes qui va là où va le vent, là où les agitateurs montrent un chemin. Alors la foule, c'est bien, parce que nous sommes, nous, si nous faisons partie souvent de foule, nous sommes appelés à écouter, à observer, comme elle le fait ici dans la parole de Dieu, à écouter ce que dit le monde, à observer ce que fait le monde, à écouter ce que dit la parole de Dieu, à observer ce que fait la parole de Dieu. Et peut-être, alors ici la foule est passive, et j'aurais tendance à dire que nous ne sommes pas peut-être appelés à être passifs, et surtout à pouvoir distinguer là où le Seigneur nous appelle d'aller et d'agir en tant qu'ensemble là où le Seigneur nous appelle, et pas nécessairement à aller là où le monde va, à suivre simplement les personnes qui parlent plus fort que les autres. Les pharisiens. Est-ce qu'en tant que chrétiens, ne devenons-nous pas parfois des pharisiens ? Excusez-moi l'expression, je ne veux choquer personne, mais est-ce que nous ne sommes parfois pas plus catholiques que le pape, notamment quand il s'agit du comportement des autres ? Oh, t'as vu ce chrétien-là ? Il fume. Oh là 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 là. T'as vu cette chrétienne-là ? T'as vu son décolleté, la longueur de sa robe ? T'as vu celui-là comme il jure, comme un charretier ? N'avons-nous pas parfois tendance à être comme ça ? À être plus catholique que le pape, à être plus, plus blanc que blanc. Mais j'aurais tendance à dire parfois aussi, est-ce que nous ne sommes pas des pharisiens par rapport à nous-mêmes, exigeant de nous-mêmes une perfection impossible à atteindre, en tout cas de ce monde, oubliant, comme on l'a rappelé ce matin, que le Seigneur efface tous nos péchés et qu'il ne se souvient plus de rien, et que dès lors, culpabilisés par notre propre jugement par rapport à nous-mêmes, eh bien, nous sommes immobilisés, gelés dans notre relation avec le Seigneur. Que nous nous piégeons nous-mêmes et que nous nous mettons en incapacité d'être des adorateurs du Seigneur et des personnes qui le suivent avec enthousiasme et dynamisme. Et que nous nous refusons à la grâce du Seigneur sans cesse renouvelée. Et je voudrais vous appeler à ne pas être des pharisiens pour vous-même, mais à vous souvenir sans cesse de la grâce du Seigneur. La femme adultère. Alors évidemment, si on se contente de l'adultère et de ce qu'elle est exactement, de sa définition propre, vous me direz, ben moi je ne suis pas concerné. Mais Jésus lui-même a fait une extension de la notion d'adultère. Il dit, si tu regardes avec envie la femme de ton voisin, et puis etc., etc., tu commets aussi une adultère. Mais j'aurais tendance à élargir la notion encore plus grande. Finalement, ne sommes-nous pas tous des pécheurs d'une manière ou d'une autre? Et est-ce qu'il y a petit ou grand péché? Est-ce qu'il y a péché public, péché caché? Je ne pense pas. Péché, c'est un péché. Point. Comment sommes-nous par rapport à la femme adultère? Est-ce que nous aussi, nous ne sommes pas dans une situation où nous nous disons « Quelle honte, je suis pécheur. Les autres me regardent comme étant un pécheur, une pécheresse. Et voilà, je suis immobilisé. Quelle honte, je ne pourrais plus rien faire. Je ne pourrais plus être... quelqu'un qui fait du bien. Et puis, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire aussi, comme la femme adultère, de dire, ben voilà, je suis condamné à la mort, de toute façon. Est-ce que nous ne nous disons pas, trop souvent, que les dons, que les dés sont jetés, et que nous ne maîtrisons plus notre destin, que nous ne sommes plus à même d'influencer, d'avoir des décisions par rapport au Seigneur. Sommes-nous dans ce type de situation? C'était la situation de la femme adultère. Avons-nous conscience de notre péché? Avons-nous surtout conscience que nous pouvons nous en repentir? Et avons-nous conscience que nous avons en Jésus? Jésus, justement, on pourrait, comme le dit la parole de Dieu, « Soyez mes imitateurs ». Donc nous pourrions être des imitateurs de Jésus. Et dans notre comportement d'aujourd'hui avec les personnes qui nous entourent, avoir le même type de réaction. De ne pas avoir une réaction de condamnation, de dire « c'est pas bon, tu es foutu ». Est-ce que c'est notre rôle? Alors nous pouvons éclairer les choses, nous pouvons informer, mais est-ce à nous de condamner? Ne sommes-nous pas appelés justement à être des témoins de ce que Jésus fait? De ce qu'il a fait et de ce qu'il fait aujourd'hui, encore et toujours. Donc soyons les imitateurs de Jésus et ayons le même cœur pour les personnes que nous connaissons autour de nous. Mais aussi, Jésus, est-ce qu'il ne nous adresse pas aujourd'hui le même type de parole? Ne nous dit-il pas « Où sont ceux qui t'accusent ?» Et ne nous dit-il pas « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Alors, que nous soyons tracassés sur notre existence, que nous soyons tracassés peut-être ou nous nous interrogeons sur notre vie avec le Seigneur, comment recevons-nous cette parole de Jésus ou ces paroles de Jésus? Alors, est-ce que ce récit est un récit qui ne vous concerne pas? Je pense que c'est une parole qui nous interpelle aujourd'hui encore et qui nous ouvre, je dirais, un espace de liberté où nous pouvons nous engouffrer et rejoindre le Seigneur. Alors je vous invite maintenant peut-être à prendre une minute de réflexion et puis j'aimerais terminer par une prière. Oui, Seigneur, aujourd'hui encore, tu parles. Pouvons-nous entendre cette parole où tu dis « Où sont ceux qui t'accusent ?» Pouvons-nous entendre cette parole pour la première fois ? Peut-être nous la rappeler en entendant la parole de Jésus qui dit « Moi, je ne te condamne pas. » Et ce même Jésus qui dit « Dans ton cœur, va et ne pêche plus. » Ce Jésus qui dit maintenant « Je te sauve. » C'est ce qu'il a fait avec la femme adultère. La femme adultère était destinée à être lapidée et grâce à l'intervention de Jésus, elle est en vie. Jésus te dit la même chose. Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Viens à moi, reviens à mon Père. Je t'offre ce chemin. Comment réagis-tu par rapport à cette parole? Est-ce que ton cœur l'entend, la reçoit? Et répond à Jésus en disant « Oui, je viens ». Viens à toi. Tu me sauves. Je ne puis t'en être éternellement reconnaissant. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. J'aimerais vous laisser un dernier verset qui est une parole que je voudrais vous laisser comme une parole de bénédiction. Et qui est en fait le verset qui suit dans le récit. Donc c'est au verset 12, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, et ça rejoint l'introduction qui a été faite ce matin, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie, lumière et salut. » Que le Seigneur vous bénisse.